ma come una
quand tu dis que la police c'est des chiens, après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes de shit, t'en plus jamais la loi des drames. Style enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams. Eh flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup boy, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif valable, on voit rien que derrière les vannes que tu envoies. Tiens, tant qu'une chose c'est que l'aide nous perd son sang froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à glace. J'ai la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait ta rage.
Fermez la rue qui souffre. Plus de 60 000 détenus, les prisons sont à bout de souffle.
I am dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon?
Car tout porte à croire que les tiégars ont toute la France contre eux.
Dangerous.
Au déboire à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais de chance.
Dangerous. Dangerous. Dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Je veux pas rester ici.
Bon sang, laissez-moi en sortir.
Je suis soi-disant ici pour aller mieux.
Mais c'est encore pire.
Si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer.
Est-ce que je demande
ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris. Les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison.
Je sais que c'est possible.
Il y a comme un goût de ouf dans le cœur de mes soeurs.
Tout pété, tout démonté, tout brûlé.
Sortez les briquettes, sortez les briquettes.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Salut.
Salut.
Vous écoutez Les Murs ont des oreilles sur Radio Kaleidoscope 97 FM. On est en train d'enregistrer l'émission du 19 juin. C'est une émission qui passe le troisième mercredi du mois et l'idée c'est de diffuser des informations contre les prisons et l'enfermement. Aujourd'hui, on va parler de différentes choses. Pour commencer, le fait que les fouilles à nu systématiques ont été récemment supprimées à la maison d'arrêt de Vars. Ensuite, on va parler d'un appel national qui a été lancé ce matin pour bloquer toutes les tôles en France, donc un appel lancé par les matons. On parlera ensuite d'un rendu de plainte qui avait été déposée par des prisonniers concernant les conditions de travail dans les prisons, et ensuite des lettres de prisonnières qui ont écrit depuis la prison de Cesse près de Toulouse où elles sont enfermées pour parler de ce qu'elles vivent là-bas. Puis, on parlera rapidement de la situation de Christine, dont on avait déjà donné quelques informations dans les émissions précédentes. Et pour finir, on parlera de quelques brochures et informations qui sont sorties récemment. Voilà. Donc, pour commencer, on va parler directement de la suppression des fouilles à nu systématiques à Vars.
Ouais. Et ben, du coup, le mois dernier, on avait déjà parlé de ça, que les fouilles à nu, les fouilles intégrales, qui sont utilisées de façon systématique dans pas mal de tôles, notamment avant et après les parloirs. Et du coup, il y avait plusieurs tôles qui avaient été sanctionnées par des tribunaux administratifs ces derniers mois, car depuis la loi pénitentiaire de 2009, ces fouilles doivent être, normalement, du coup, je cite la loi, justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Du coup, ça, c'est la loi. Et du coup, il y a eu pas mal de recours pour essayer d'annuler la systématisation des fouilles intégrales dans plusieurs tôles. Il y a notamment Corba, Bourg-en-Bresse, Fresnes qui ont été sanctionnés par des tribunaux administratifs. Et du coup, dernièrement, fin mai, c'est Vars qui l'a été. Comme dans d'autres cas, c'est un détenu qui a saisi le tribunal dans le cadre d'une procédure de référé-suspension. Il s'agissait de suspendre une note de service rédigée par la direction de Vars qui instaurait les fouilles intégrales et systématiques des détenus à leur retour du parloir. Et cette note valait du 1er mai 2013 jusqu'au 30 juin 2013. Du coup, le détenu qui a été défendu par Maître Vernet a dû faire deux fois du métard fin mai car il refusait de se soumettre à cette fouille. Une première fois, il a pris 5 jours. Une deuxième fois, il a pris 10 jours. Et c'est seulement la deuxième fois qu'il a réussi à faire sauter la décision grâce à un vice de procédure. Du coup, c'est suite à ça qu'il a saisi le tribunal administratif de Grenoble. Sa requête a d'abord été refusée une première fois le 30 mai, mais il a déposé une nouvelle plainte, et cette fois la justice lui a donné raison. C'était début juin, en jugeant cette note illégale. Du coup, on va pas féliciter la justice d'avoir pris cette décision, car en général, de toute façon, les détenus n'ont aucune voix au chapitre, mais du coup, on espère que ça permettra peut-être que cette pratique humiliante, elle sera moins subie par les prisonniers de Vars. Du coup, sachant quand même que selon la loi, ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est possible de rétablir ces fouilles intégrales si la sacro-sainte sécurité de la paix est en cause. En général, il ne faut pas grand-chose pour que ça soit le cas. Et du coup, on espère aussi que les matons ne vont pas en profiter pour pleurnicher sur leur manque de moyens, comme ça, c'est déjà le cas, par exemple, comment ils font à Fresnes, où ils ont manifesté contre l'arrêt des fouilles à nu. Et notamment en utilisant l'évasion de Réo-Edouane Faïd comme un prétexte pour demander plus de sécurité. Ou encore, comme d'autres matons de la prison de Varennes-le-Grand, qui disent que puisqu'on n'a plus le droit de faire des fouilles à nu, on aimerait bien avoir des scanners corporels. Du coup, ce qui permettrait de trouver des objets métalliques sans passer par ces fouilles-là, quoi. Et du coup, c'est encore un gadget de plus, encore plus de sécurité. Pour l'instant, la réponse de l'État, c'était qu'il n'y avait pas assez de sous pour ça, parce que c'est des trucs qui coûtent super cher. Du coup, on espère que ça restera le cas le plus longtemps possible. Et du coup, nous, on a vu cette info-là sur Internet, sur les médias et tout ça. Et du coup, on cherche à savoir un peu comment ça se passe sur la prison de Vars depuis cette décision. Si effectivement les fouilles ont été arrêtées, si le détenu qui a fait cette requête se fait pas trop emmerder par la pénitentiaire ou toute autre info sur l'ambiance de la tôle en ce moment. Donc n'hésitez pas à nous faire suivre des infos si vous en avez.
On va enchaîner avec une info qui est sortie à la radio ce matin. Donc un appel national a bloqué qui émane de l'UFAP, donc syndicat de matons. Donc ils se plaignent, comme ils le font très souvent, de leurs conditions de travail et demandent plus de moyens pour eux. Donc c'est-à-dire qu'ils demandent plus de moyens pour pouvoir faire leur sale boulot qui consiste à enfermer et à mater les prisonniers dans le quotidien, et tout ça sans parler des histoires de violence de matons dont on entend parler régulièrement. Donc ce qu'on tient à préciser, en fait, c'est que ça nous met particulièrement en colère de les entendre se plaindre comme ça, parce que ce qui est très clair, c'est que les moyens qu'ils demandent et qu'ils ont, ils les utilisent contre les prisonniers. Et que quand ils font un blocage, concrètement, c'est qu'ils empêchent les entrées et les sorties de l'établissement pénitentiaire pendant toute la journée et toute la durée du blocage. C'est-à-dire qu'ils empêchent la tenue des parloirs, mais qu'ils empêchent aussi les personnes qui pourraient venir pour des rendez-vous autres, comme par exemple des avocats, qu'ils empêchent les extractions de prisonniers. Donc par exemple, quelqu'un qui a rendez-vous à l'hôpital pour un soin, il ne pourra pas y aller. Et qu'à l'intérieur, ça veut dire aussi que la distribution de la gamelle est retardée, qu'il n'y a pas de promenade, qu'il n'y a pas d'activité, que les prisonniers sont confinés en cellule, qui n'ont pas d'accès au téléphone, voire même pas aux douches si elles sont à l'extérieur, etc., 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 avec évidemment des variations possibles d'une tôle à l'autre, mais dans tous les cas, c'est une sale journée qui se prépare pour les prisonniers et les prisonnières. Donc on pense bien à eux et à elles aujourd'hui. On veut repréciser que quand les matons racontent qu'ils demandent des améliorations concernant leurs conditions de travail, c'est toujours quelque chose qui va aller à l'encontre des prisonniers, parce que les matons et les prisonniers ont des intérêts qui sont complètement divergents, et que la seule chose qu'on peut espérer pour aujourd'hui, c'est que les matons qui sont dehors en train de manifester vont se taper avec les keufs et qu'ils se blesseront mutuellement.
Cramer les prisons qu'on y laisse, flic et maton. T'es mort, t'es mal, t'es mal, t'es môme, t'es mal.
Voilà, donc maintenant on va enchaîner en développant un petit peu plus ce qui a trait avec le travail en prison. Donc il faut savoir que le travail en prison, on l'a déjà dit, c'est une exploitation énorme pour les prisonniers. Que quand on est en prison, il faut de l'argent, en premier lieu pour cantiner. Que les produits de consommation courante sont plus chers qu'à l'extérieur, qu'il y a des personnes qui n'ont absolument aucun revenu parce qu'ils n'ont pas des proches qui peuvent leur verser des mandats, et donc parfois qui peuvent être amenés à travailler pour survivre, pour aussi sortir de leur cellule, et aussi pour donner des gages de réinsertion, entre guillemets, avoir des remises de peine et pouvoir espérer sortir un peu plus vite. Il y a de nombreux prisonniers qui ont parlé de comment se passent les conditions de travail à l'intérieur des prisons et de la manière dont ça profite bien aux entreprises. Donc soit aux entreprises qui possèdent les prisons, qu'il s'agisse de FH, Bouygues, Sodexo, GDF Suez par le biais de GEPSA, soit aux entreprises qui font de la sous-traitance dans les ateliers de travail, et elles sont nombreuses. Donc il y aurait environ un quart des prisonniers qui travaillent dans les prisons française. Et ce qui se passe, c'est que pour travailler, un prisonnier doit faire une demande qui est acceptée ou pas par une commission, et qui fait qu'ensuite le prisonnier il est classé, et que donc par la suite il peut être déclassé, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire lui retire la possibilité de travailler ou de faire une formation. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé comme une punition. On avait parlé par exemple d'un prisonnier qui avait raconté à Bourg-en-Bresse comment il avait été déclassé. Parce qu'il avait été accusé d'avoir récupéré une projection en cours de promenade, et que lors du passage au prétoire, rien n'avait pu être démontré contre lui, mais que suite à ça, il avait été déclassé pour le faire chier. Et que ensuite, le travail en prison, c'est selon le rythme des boîtes et de la paix, donc parfois à la tâche, au moment où il le décide, et payé au lance-pierre, entre 1,5 et 3 euros de l'heure. Notamment une équipe de contrôleurs des prisons qui font des rapports réguliers qui permettent que les situations continuent à perdurer comme elles sont à l'intérieur des prisons, avait noté une moyenne d'un salaire autour de 1,67 euros de l'heure. Notamment, ça me fait penser aussi à un petit film promotionnel qui avait été fait pour encourager les entreprises à faire de la sous-traitance en prison. Et dans ce petit film-là, il y avait un chef d'entreprise qui disait que faire travailler les prisonniers, c'était intéressant pour les chefs d'entreprise et que c'était une bonne alternative à la délocalisation. Donc ça montre bien à quel point c'est une grosse exploitation. Et donc cette année, en février 2013, il y a eu le rendu d'une plainte qui avait été posée par une prisonnière de la maison d'arrêt de Versailles. Et elle avait porté plainte au prud'homme contre l'entreprise qui l'avait employée dans des conditions d'exploitation assez fortes. Donc l'entreprise en question, c'est MTK. Et elle travaillait comme téléopératrice. Et elle avait été virée du jour au lendemain. Et le jugement rendu disait que la prisonnière avait bel et bien été employée, même si aucun contrat de travail n'avait été signé, parce qu'il n'existe pas de contrat de travail en prison. C'est-à-dire pas de... congé maladie, pas de licenciement, pas de chômage, pas de salaire minimal, etc., etc. Et donc là, ce jugement fait exceptionnel disait que le fait d'avoir fait cesser l'activité salariée de cette prisonnière, c'était un licenciement qui devait être considéré comme tel, et donc que la boîte devait lui verser des indemnités comme au dehors. Et les médias, à ce moment-là, avaient parlé de ça comme une grande première qui allait changer le rapport au travail pour les prisonniers. Il faut savoir qu'il y a différents prisonniers qui ont porté des plaintes au sujet des conditions dans lesquelles ils sont amenés à travailler, que ce soit au sujet de la rémunération qui leur est versée, mais aussi de la manière dont ils peuvent être utilisés et jetés du jour au lendemain en fonction des besoins et des intérêts des entreprises, et aussi travailler dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et sordides, c'est-à-dire par exemple sans aucune condition de sécurité par rapport à des tâches qui peuvent être dangereuses, et aussi dans des conditions qui... dans la répétition, peuvent avoir des répercussions sur la santé, notamment beaucoup de bruit. Ça fait que des personnes qui, pourtant, n'ont pas d'argent, refusent de travailler parce que les conditions dans lesquelles ça se fait, c'est vraiment trop abusé et qu'ils ne veulent pas enrichir ni ces boîtes ni l'administration pénitentiaire. La semaine dernière, il y a eu donc un rendu d'une décision qui concernait une plainte qui avait été posée auprès du Conseil constitutionnel par deux prisonniers de Metz à ce sujet-là. Et donc le Conseil constitutionnel a considéré que l'absence du contrat de travail ne privait pas les prisonniers de leurs droits dans ce contexte, ce qui est une aberration totale. Et même si ce qu'on en pense, c'est qu'au fond, c'est la prison elle-même et tout ce qu'elle comporte qui est le fond du problème, qu'il y ait un contrat de travail ou pas. Donc ce qui est finalement la logique, c'est que dans cette histoire... la justice vient appuyer les lois qui font tourner ce monde et que même si les plaintes, elles peuvent parfois mettre des épines dans les pieds de l'administration pénitentiaire et aussi faire parler de certains aspects de ce qui se passe en détention ou alors être une manière de renvoyer la balle quand la paix ou les matons portent plainte contre des prisonniers, c'est rarement par le biais de la justice que des prisonniers peuvent obtenir des victoires. Et c'est pour ça que je voulais profiter de cette petite rubrique pour rappeler qu'à plusieurs reprises, des ateliers de travail ont été incendiés par des prisonniers. Et notamment le 28 septembre 2008 à Vars, suite au meurtre d'un détenu tué par une balle depuis l'extérieur de la prison, il y avait eu une mutinerie. Et au cours de cette mutinerie, les ateliers de travail avaient été incendiés. Donc on apprend que ils viennent d'être mis en fonction, ce qui ne nous réjouit pas du tout. Il y a aussi plus récemment, le 2 janvier 2012, un incendie qui avait ravagé un atelier situé dans le bâtiment D5 de la maison d'arrêt de Fleury. Il y avait environ 150 détenus qui travaillaient au reconditionnement de bijoux fantaisie. Et c'est un incendie qui avait été déclaré incendie criminel parce que il y avait des traces d'accélérateur qui avaient été retrouvées sur le lieu de départ de l'incendie. Mais... en dépit du fait que ça a été des pertes importantes pour la paix, parce qu'ils ont noté à peu près 400 000 euros de dégâts, il n'y a aucune arrestation qui a été faite suite à ça. Et pour finir, je voulais revenir sur un texte qui a été fait il y a plusieurs années. En fait, en 2003... il y a eu un incendie dans les ateliers de la prison de Clairvaux. Et donc, un prisonnier, Pascal Brozoni, a écrit un texte où il parle un peu du climat qui régnait à la prison de Clairvaux et qui dit que lui, il a commis cet incendie et qu'il explique pourquoi. Donc, il parle de comment l'administration pénitentiaire met la misère aux prisonniers d'une manière générale et à leurs proches et qui veut leur rendre la monnaie de leurs pièces. Et donc, notamment dans ce qu'il dit, il dit « Le 16 avril, donc c'est des extraits, le 16 avril 2003, j'ai présenté l'addition, l'incendie des ateliers. Paraît qu'il y en a pour plus de 4 millions d'euros. J'ai été avec 12 autres détenus innocents immédiatement transférés. Autant que ce soit clair, on n'est pas venu en prison pour l'ambiance. Et quant à ceux qui se plaignent de ne plus avoir eu de travail par la suite, alors là, ajoutons qu'on n'est pas venu non plus là pour le travail. » On s'en bat du travail, on est en tôle et certains veulent entrer dans le jeu de la pénitentiaire et de la justice, être sages, payer leurs dettes et tout irait pour le mieux. Faut arrêter. Aucun compromis n'est possible. Et même ceux qui collaborent sont bien mal payés en retour. Plutôt que de penser au boulot, faudrait plutôt penser à se battre ou au moins soutenir ceux qui se battent pour que la justice respecte ses propres lois, notamment mi-peine, mi-grâce pour tous. Voilà, je vais m'arrêter là sur cette rubrique.
Du coup, moi maintenant, je vais vous parler des nouvelles qu'on a eues dernièrement de la maison d'arrêt de Cess, près de Toulouse. Du coup, c'est des détenus du quartier de femmes de Cess qui ont fait sortir deux lettres où elles parlent de ce que leur fait subir les matones. Chantage, humiliation, mauvais traitement. Elles ont écrit à Radio Canal Sud pour qu'on parle de, pour qu'on parle de ce qui se passe pour elle dans la tôle et pour chercher du soutien à l'extérieur. Faut savoir du coup que la prison de Cesse, c'est une de ces tôles nouvelle génération, là, comme ils disent, qui a été construite en 2003, et c'est une de ces prisons super sécurisées où se multiplient caméras, sas, fouilles, et où du coup tout déplacement ou tout transfert est rendu beaucoup plus long, c'est vachement plus aseptisé, et du coup ça rend la détention encore plus lourde à vivre. Du coup c'est un peu dans ce cadre-là en fait que les détenus sont dans la prison, quoi. Du coup, le premier courrier est daté du 10 mai. Elle parle de, je cite, propos diffamatoires, méprisants et condescendants qu'elle subisse tous les jours de la part des matones. Elle dit aussi qu'il y a eu 5 tentatives de suicide en l'espace de 10 jours, que les détenus, ces détenus étaient clairement poussés à bout par les pressions et les brimades quotidiennes. Elles ont essayé d'avoir un rendez-vous avec la directrice, mais elles n'ont jamais eu de réponse. Et du coup, dans un truc où elle soupçonne que les surveillantes aient bloqué le courrier et où que tout simplement la directrice n'en ait rien à foutre. La deuxième lettre qui est sortie date du 30 mai et c'est une détenue qui détaille un petit peu comment les matones leur font la misère, que ça soit des humiliations ou que ça soit de la violence physique. Elle parle notamment de la situation de Iti, une prisonnière militante basque emprisonnée à Cesse, qui a été une cible privilégiée de la part des matones. Du coup, je vais vous lire le passage où elle parle de ça. « Donc, notre collègue détenu Iti a demandé gentiment aux surveillantes de ne pas la tutoyer, que le respect doit être dans les deux sens. Enfin voilà, le ton est monté et Iti a été passé à tabac, coup de pied dans le ventre, etc. De là, ils l'ont jeté comme un chien au mitard, cellule disciplinaire. Il y fait très froid dans cette cellule, elle a réclamé une couverture et ils ne lui ont pas donné. » Aussi, le lendemain, Iti a été vue par le médecin à qui elle a fait part qu'elle était indisposée et qu'elle n'avait rien, ni serviette, ni papier toilette. Le médecin lui a donné de l'essuie-tout, ne serait-ce que pour l'hygiène, et en remontant au mitard, les surveillantes lui ont confisqué l'essuie-tout. Iti a fait part de son mécontentement et hélas, les surveillantes l'ont repassé à tabac. Résultat, ils lui ont mis 25 jours de mitard, dans des conditions inhumaines, sans hygiène, elle a froid, et pour faire valoir ses droits, la pauvre Iti fait la grève de la faim avec une amie qui elle aussi fait une grève de la faim. Du coup, en recoupant aussi des informations sur internet, du coup on apprend qu'il y a deux autres prisonniers et prisonnières basques de cette prison qui se sont mis en grève dès fin mai en solidarité avec Iti. Et il y a aussi d'autres détenus qui ont lancé un refus de plateau. Et notamment dans cette deuxième lettre, elle explique comment elles subissent des pressions et des chantages des surveillantes pour les pousser à ne pas s'en mêler, à arrêter leur mouvement et à isoler les grévistes de la faim. Dans cette seconde lettre, elle décrit aussi un refus de parloir pour des raisons bidons, des fautes de soins à une détenue suite à une fausse couche ou encore des fouilles abusives ressenties comme un viol. Et du coup, suite à ça, Canal Sud a reçu une troisième lettre d'une ex-prisonnière de Cesse qui confirme un petit peu le climat qu'il y a dans cette tôle et qui résume un petit peu ce que les prisonnières subissent. Du coup, on va vous la lire maintenant.
Bonjour Canal Sud. Je vous écris pour apporter mon témoignage au sujet des mauvais traitements dénoncés à la MAF de Cesse. La MAF, c'est la maison d'arrêt pour femmes. J'ai été incarcéré pendant quelques mois dans cette prison il y a peu de temps, et je ne peux que confirmer ce que disent les détenus dans leur courrier. Durant cette période d'enfermement, j'ai assisté et ou vécu plusieurs scènes dont je vous fais une liste non exhaustive ci-dessous. Régulièrement, et pour des raisons injustifiées, les parloirs sont annulés alors que les familles sont là et à l'heure. Les surveillantes lisent tous les courriers avant de les distribuer, et divulguent volontairement leur contenu à qui veut bien les entendre. Une détenue malade a été privée de nourriture parce que les surveillantes exigeaient qu'elle se lève elle-même pour prendre le plateau repas que sa co-détenue était prête à lui récupérer pour l'aider. Les infirmiers, infirmières et médecins ne respectent pas le secret médical et divulguent des informations non nécessaires aux surveillantes. Une détenue a attendu près d'un mois avant de pouvoir subir l'intervention dont elle avait besoin. Elle a failli faire une septicémie tellement la prison a mis de temps à l'envoyer à l'hôpital. Alors que les femmes blanches et parlant français sont appelées par leur nom, les autres sont bien souvent désignés par leur nationalité ou région d'origine. Il n'y a aucun moyen de traduction mis en place par l'AP, qui ainsi exclut la possibilité aux non-francophones d'accéder aux mêmes droits que les autres. Après chaque parloir, les surveillantes effectuent une fouille totale à nu automatiquement sur chacune des détenues, alors que cela n'est pas obligatoire. La fouille se fait dans un recoin, mais tout le monde peut voir. C'est une pratique non nécessaire et rabaissante. Certaines détenues attendent plus d'un mois pour recevoir les repas adaptés à leur régime alimentaire. Les surveillantes, soit parce qu'elles ont la flemme de faire leur travail, soit simplement par vengeance, pratiquent la technique de l'oubli. C'est-à-dire qu'elles laissent les détenus dans la salle d'attente parfois pendant des heures, où il n'y a rien, ni toilette, ni eau, ni occupation. Et j'en passe. Ça peut paraître des détails, mais lorsqu'on est privé de liberté, les proportions ne sont pas les mêmes. Ce qui est certain, c'est que les surveillantes exercent leur toute-puissance sur les détenus de manière arbitraire et font preuve de sadisme, et qu'elles bénéficient de la complicité de la direction qui les couvre. Je ne suis donc pas surprise que les problèmes à la MAF soient niés en bloc par l'AP, qui, en plus, en profite lâchement pour pleurnicher sur ses conditions de travail. Si je vous écris aujourd'hui, c'est pour soutenir ces détenus et dans l'espoir que les médias arrêtent de mettre en doute leurs propos. Vous comprendrez que je ne signe pas de mon nom.
Du coup, voilà, ce que décrivent ces prisonnières de CES dans ces trois lettres, ça illustre pas mal le quotidien arbitraire de la prison, où en fait, les matons et matonnes, elles peuvent décider d'être cool ou sympa si elles ont envie de l'être, mais elles peuvent aussi très bien décider de faire la misère aux détenus, et que de toute façon, quoi qu'ils fassent, ils ont les moyens techniques et la légitimité de le faire. La légitimité, que je parle de la légitimité dans les médias dominants et au niveau de l'État. Et du coup, en comptant notamment sur le monde clos de la prison pour que ce qui s'y passe reste entre les murs. Et du coup, c'est pour ça que ça nous semble d'autant plus important de pouvoir relayer ces paroles qui arrivent à en sortir et essayer de faire ça en sortant un petit peu de la logique du fait divers qui se passe pas mal dans les médias de masse et qui appose ce truc de fait divers sur les témoignages où en général la parole des surveillants fait très souvent office de vérité face à celle des détenus. Et du coup, par rapport à ça, notamment, elle fait référence dans cette troisième lettre à ça, qu'il y a un syndicat des matons qui n'hésite pas à nier les faits par rapport à ce qui leur est reproché, et qui accuse notamment Iti d'être dans la provoque et d'agiter les foules, et que ça serait pour ça d'ailleurs qu'elle enchaîne transfert sur transfert. D'ailleurs, juste après ces histoires-là, début juin, elle a été transférée à Fresnes. Du coup, ils l'ont bougé encore une nouvelle fois. Et du coup, ces matons pensent même porter plainte pour diffamation en réponse aux lettres envoyées à Canal Sud. Donc voilà, il faut croire que ça leur plaît pas trop qu'il y a des détenus qui l'ouvrent et qui refusent de se faire traiter comme des chiens. Et du coup, pour nous, il est clair qu'on se pose en solidarité avec les détenus en lutte à CES et on leur souhaite beaucoup de courage et de détermination face à la paix. Donc voilà, et si vous avez plus d'infos sur ce qui se passe là-bas ou sur ce qui se passe dans d'autres tôles, faut toujours pas hésiter à nous les faire parvenir. Du coup, je vais en profiter maintenant pour vous rappeler les contacts de la radio. Du coup, les contacts, c'est les murs en des oreilles. Le contact mail, c'est lesmurs@riseup.net, lesmurs@riseup.net. Et le contact par courrier à Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble CEDEX 38018, je répète, Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble CEDEX 38018. Voilà, et du coup par rapport à ce sujet-là, si vous avez envie de lire les lettres en entier et d'avoir plus d'infos, c'est possible d'aller sur le nouveau site de l'Envolée, l'envolée.net, lenvoleaccentaigu.net. Voilà, du coup vous pourrez trouver ces lettres-là. Ah oui, et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que sur le site de l'Envolée, il y a aussi les contacts de la prison, de la directrice et du directeur interrégional des services pénitentiaires. S'il y a des personnes qui ont envie de leur écrire pour leur dire leur façon de penser, c'est aussi possible.
On va faire une petite coupure musicale. Donc le morceau qu'on va écouter ainsi que le tout petit bout qu'on a écouté tout à l'heure, c'est un extrait d'une compilation qui s'appelle Feu au centre de rétention, qui est une compilation qui est sortie en solidarité avec les inculpés de l'incendie du centre de rétention de Vincennes. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle La haine de l'oppression.
On radote, répète parce qu'on a l'impression qu'ils n'entendent pas. On a la haine de l'oppression et c'est la rage qui quitte nos pas. On brandira nos drapeaux et propagera la révolte tant qu'il le faudra. Parfois on aura mal, on en chialera et après on se relèvera. Insoumis, nos idées sont infalsifiables car écrites avec le sang des condamnés. Étouffés par l'écho de la longueur des peines purgées. Sombre comme la crasse et le visage d'un insurgé. Ça vient d'en bas et ça rêve de les faire chuter haut. Masqué, cagoulé, m'aider, m'aider. Aucun SOS ne peut sauver ta peau. La haine de l'oppression, le froid de la saison, la légitimité de notre raison.
L'histoire est en marche, avec ou sans voiture classe. Rap dur grasse, 100% matière grasse. Ça sent l'oppression malsaine, les murs ont des oreilles, ceux des prisons larcènent. Partout c'est la même, grosse barricade. On veut fuir Paris plage vers le Costa Rica. Rien à gagner, va pas tout parier pour perdre. J'vise pas le court terme, pas besoin de parier pour plaire. Oppression, oppression gouvernementale. Génération bancale de tâches gouvernementales. La scène est grave, rodée, le score est mal noté. Les stars font plus dans l'OTS, font downloader. On veut se carotter, on fait que baloter nos rêves. J'ai pas voté vos règles, downloader. Coupe les sombres, coupe le son. Le phrase reste fat, une bombe sur vos massacres avant d'écraser l'asphalte.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je porte la rue comme une chemise, les deux doigts dans la prise. Mauvaise surprise sur les ondes des oppresseurs. Sans scrupules, féconde les ovules de leurs sœurs. Mauvais perdant, dès qu'on prive, ceux qui écrivent réactivent les réseaux dormants. Dans nos enclaves, ils nous laissent procréer. Pour que la race des esclaves ne s'éteigne jamais. Mauvaise détente, quelques tentes au bout de ma pine. Le terrain d'entente change en champ de mine. Résister mon crime à l'origine du mal. Des leaders ici dans leur eau minérale. Mauvais élèves, entendre les connards. Trop de comptes à rendre au méandre du pouvoir. Rendre ma copie bien avant que je crève. Oui, l'utopie n'est toujours pas un rêve.
Je repère l'ennemi avec méthode en permanence. Maîtrise l'ensemble de ses codes. L'esprit en guerre et l'œil hagard. Nietzsche un de gauche, fauché, fiché salanard. L'ennemi intérieur, le suspect, le fautif. Qu'on enfermerait sans aucun motif. Voilà leur justice, droit de vote plus RSA. Et ils voudraient qu'on en reste là. Eux aussi, ils nous haïssent. Une fois séquestrés, t'auras une bonne raison de nous détester. Rien à perdre, l'avenir est confus, l'horloge tourne. Chaque minute de plus nous consume. Car elle reflète ce que n'a pas dit l'école. Le taf c'est l'esclavage, en fait la propriété c'est le vol. On connaît Babylone, on sait où mènent ses sentiers. Les chaînes et le PC d'un banquier.
Bonsoir monsieur l'agent, vous pouvez répéter quoi? Faut qu'on passe toutes nos races au détergent. Bonsoir monsieur le maire, recevez-moi dans vos salons. Que je débatte en tirant 2-3 balles en l'air. Bonsoir monsieur le commissaire. Le sale boulot, ça donne des galons. Ça rapporte bien le nègre et le melon. Bonsoir madame la ministre de la justice. Dans les bas-fonds, vive les talons aiguillés, les parés. Bonsoir monsieur le financier, l'actionnaire. Un bon vin, une belle table, on licencie entre deux verres. Bonsoir monsieur l'inspecteur. Déjà de nuit, les narines pleines, la laine au whisky. Putain ça fait bonsoir peur. Le douanier, bonsoir monsieur son pourquoi chien. Il aboie comme ça, mes poches elles sentent pas le royal canin. Bonsoir madame l'oppression, ce soir votre ennemi a une gueule, un nom officiel, fils du bleu.
L'oppression c'est des stars à tous les coins de rue. Réalité brute où chaque regard sans la garde à vue. Ou pire quand ça brûle, qu'une bévue de leur part devient une bavure. Détenu vu que c'est des aveux, ou plongé malgré ton baveux. Dans tous les cas on est oppressé comme en cage. Certains pensent être libres mais c'est une plaisanterie. Quand on en a instant, des victimes de leurs hautes instances. La haine on la cultive depuis tout jeune. Vous faites tout pour, vous qu'en faites le seum depuis toujours. Grandit au fil du temps, des chances qui s'amenuisent. Du petit écran, des reportages qui nous méprisent. Tout ce qu'on touche ils disent qu'on détruit. Prétexte au fichage ADN. Eh ouais, au délit de faciès ou pour faire passer Edwige.
5000 ans d'histoire, 5000 ans de conquête, 5000 années d'erreurs, 5000 années abjectes. Pourtant, on s'est construit avec, notre conscience a tenu tête. Mais toujours la gorge nouée face au fleuve du sang aztèque. Et le spectre de l'oppresseur est devenu hydro, mille crocs, mille bras et mille têtes. La hiérarchie comme quête, alors les opprimés sont réfugiés au sommet. Des lignes de crête ou imprenables sur les mers vont les puissants leur perdre. Mais de Spartacus au Spartakis, toujours des sociaux traîtres. Toujours des capots, des capons qui lèchent les bottes du maître. Se prosternent sous les croix, les croissants ou les sceptres. Cela, l'oppression ils l'acceptent, nous. Cette haine dans nos crânes que certains veulent omettre. En font des livres entiers pour la décrire obsolète. Elle reste vivace comme le brasier qui fait la fonte. Qui fait la barre qui est tête. La haine de l'oppression, la haine de l'oppresseur, la haine des larbins, des baillons.
Ok.
Aussi vrai que les marches silencieuses n'enterrent pas les contentieux. Je suis en marche du troupeau, des militants prétentieux. Ma démarche, marginalisée par les censeurs. Gravit les marches du Panthéon, la révolte n'a pas l'ascenseur. Les gardiens de l'arche, on nous tripe en cravate et savent bien qu'on tue pas un règne dans un lancer de savate. Ils matent la rébellion comme de la viande à abattre. Les insurgés ont des pavés et le pouvoir à la braque. Si j'ai la haine de l'oppresseur ancré dans mes gènes, c'est que t'opies d'un monde meilleur. Repose, place, tienne, amen. La propagande et l'éducation de masse passent par la rue, la littérature et le caisson de basse. Soulèvement, guerre civile de tout temps. La liberté, une lutte de chaque instant gagnée dans un bain de sang. Quand le rouleau compresseur des tyrans va de l'avant, prêt à crever pour ses idées, le peuple ne tire jamais à blanc, non.
Pendant que les autres enfoncent des portes ouvertes, je vagabonde en son de l'alcool et de la drogue sous perte. Circule en zigzag et considère les flics comme des vils schlags. Condamné à l'échec sur ton président, je défecte. Oui, je suis ce genre de métèque. Les têtes qui s'en bat les steaks, craquent les billets et passent à travers les mailles du filet. J'ai trop trimé pour me laisser opprimer. J'ai trop sué pour laisser un port me tuer. Lutter, résister, organisez-vous jusqu'à la victoire finale. Un point, c'est tout.
Voilà, vous écoutez toujours Les Murs ont des oreilles sur Radio Kaleidoscope 97 FM, une émission contre la prison et l'enfermement. On va enchaîner maintenant en donnant quelques nouvelles de Christine, donc dont on avait déjà parlé dans des précédentes émissions. Donc on a envie de parler de ce qu'elle vit parce que elle se bat contre l'administration pénitentiaire et donc on trouve que c'est important de la soutenir et de relayer les infos par rapport à ce qu'elle vit. Donc en fait, Christine, elle est incarcérée depuis novembre 2012. Elle purge plusieurs peines qu'elle a prises ces dernières années suite à de nombreux moments où elle ne s'est pas soumise à l'autorité de différentes institutions, qu'il s'agisse des flics, de l'administration pénitentiaire, des institutions psychiatriques. Et elle a été d'abord incarcérée à la maison d'arrêt de la Talaudière à Saint-Étienne en janvier. Puis elle a été transférée à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas pour purger du mitard, parce qu'il n'y a pas de mitard au quartier de femmes de la Talo. Le 13 février, elle est passée en procès à Lyon avec 7 chefs d'inculpation, et dont violence et outrage sur Maton, évasion de garde à vue, refus de donner son ADN. Il y a eu des textes publics qui sont parus, notamment sur Rebellion et différents indie médias, qui reviennent plus en détail sur ces faits-là. Elle a écopé de 4 mois ferme et le parquet a fait appel de cette peine pour demander, comme c'est bizarre, à ce qu'elle prenne encore plus. La date de passage en cour d'appel, elle n'est pas encore tombée. Et ça, c'est un exemple de plus ce fait très courant que quand on rentre en prison, on rentre pour une durée donnée et que très vite, les peines peuvent se cumuler, se rajouter et la date de sortie s'éloigner pour des faits qui se passent à l'intérieur par des prisonniers et des prisonnières qui ne se laissent pas faire et des matons qui portent plainte. Et donc des peines de prison ferme qui tombent encore en plus. Le lendemain de son procès, elle a été transférée au centre de détention de Joux-la-Ville, près d'Auxerre. Elle est restée là-bas 2 mois et pendant ces 2 mois, l'administration pénitentiaire a tenté de la briser par la manière forte en la mettant au mitard, au quartier d'isolement, en supprimant ses permis de visite, en étant avec elle violent, en l'humiliant de différentes manières. Et notamment, pendant ces 2 mois, elle s'est battue, par exemple, pour avoir du chauffage en cellule, parce qu'on se rappelle, comme ça caillait à cette période-là, il faisait entre 13 et 16 degrés à l'intérieur du mitard pendant la grosse vague de froid. Donc, rester en permanence sans pouvoir bouger dans cette température-là, c'est super dur. Elle a notamment à nouveau écrit à ce sujet-là donc c'est possible de trouver des comptes rendus de lettres et plus d'infos sur les sites internet dont je vous ai parlé avant. Au début du mois d'avril, elle a été de nouveau transférée, cette fois au centre de détention de Bapaume qui est dans le Nord-Pas-de-Calais. Et le premier mois était plus calme pour elle. Elle a rapidement intégré le quartier de femmes en régime porte ouverte, c'est-à-dire que les portes des cellules sont ouvertes en journée. À ce moment-là, elle avait plus de fouilles à chaque entrée et sortie de cellule. Les permis de visite lui ont été rendus, mais ça n'a pas duré longtemps. Et après deux passages de moins d'une semaine. Fin mai, elle a écopé de 30 jours de mitard. La situation s'est encore corsée avec les matons durant la première semaine. Donc, suite à des provocations, des violences et des humiliations incessantes de leur part, Christine ne se laissait pas faire. La tension est montée et maintenant elle a peine à redescendre. Et notamment, un directeur de prison lui a dit par exemple des trucs du genre « Petite conne, j'en ai maté des pires que toi, tu verras bien jusqu'où ça ira ». Ce genre de menaces qui en dit long. Le 13 juin, elle a été extraite de détention pour être emmenée en garde à vue à la gendarmerie de Bapaume. Des matons ont porté plainte contre elle. La bonne affaire, quelle belle manière de pouvoir arrondir leur fin de mois en continuant à se faire passer pour des victimes. Et de là, le parquet veut la faire passer en comparution immédiate, ce qu'elle refuse. Elle est donc renvoyée en détention avec une date de procès pour le 4 juillet au tribunal d'Arras, donc c'est dans le Nord. Et au jour d'aujourd'hui, on a peu d'informations précises, ni concernant ce qui s'est passé durant cette première partie du mitard, ni sur les chefs d'inculpation précis qui lui seraient collés. En théorie, elle est encore au mitard, elle devrait en sortir le 19 juin. Il y aura des informations publiques qui vont circuler sur Internet pour notamment un appel à solidarité avec elle de manière plus générale. Donc on peut lui écrire, on rappelle à nouveau son adresse, donc c'est Christine Ribailly, R-I-B-A-I-2-L-Y, numéro d'écrou 5629, centre de détention, quartier pour femmes, 6450, Bapaume. Donc voilà, il y aura aussi des informations un peu plus précises pour des détails, notamment concernant le passage au tribunal au mois de juillet.
Eh ben, on lui souhaite beaucoup de courage face à la paix. Moi, je vais vous parler maintenant de... Je vais vous présenter une brochure qui est sortie dernièrement, qui s'appelle « Quelques textes autour de la lutte contre les centres d'identification et d'expulsion en Italie, novembre 2012 à avril 2013 ». Du coup, c'est une brochure, un retour sur les luttes contre les CIE ces derniers mois en Italie. C'est une brochure qui a été écrite par des personnes extérieures en solidarité avec les retenues révoltées de toute l'Italie. Du coup, dans cette brochure, il y a une première partie qui revient sur la lutte contre le centre de Turin et particulièrement sur les dynamiques de solidarité et les liens avec les personnes à l'intérieur qui se sont développées depuis l'été 2009 entre les retenus et les personnes solidaires. Ensuite, il y a une retranscription d'un entretien avec un retenu du centre d'identification et d'expulsion de Ponte Galeria, à côté de Rome, où une révolte a éclaté le 18 février 2013 suite au tabassage d'un retenu nigérian qui résistait à son expulsion. Du coup, à ce moment-là, les autres retenus ont réagi pour le défendre et ont commencé à cramer des trucs, des matelas et tout ça, et ça dans tout le centre. Du coup, suite à ça, il y a une grande partie du centre qui a été endommagée par les flammes, notamment, et ce qui est plutôt cool, le système de sécurité du centre qui s'est retrouvé défaillant suite à l'incendie parce que du coup ça a cramé les fils connectés aux caméras de vidéosurveillance et là du coup c'était branle-bas de combat, ils étaient super stressés, il y avait les flics 24h sur 24 autour du centre, ils ont dû vider le centre et les répartir dans d'autres endroits et tout ça. Et du coup, là, il reste 30 à 40 retenus sur les 150 places initiale, parce que du coup il y a plus de la majorité du centre qui est complètement cramé, quoi. Et du coup, ça voilà, c'est les premières parties de la brochure. Ensuite, il y a une petite chronologie, une grande chronologie de la lutte contre les CIE. Et du coup, je vais vous lire quelques titres et extraits de cette chronologie pour vous donner un peu une idée de ce qui s'y passe, quoi. Turin, rassemblement puis révolte au CIE. 30 novembre 2012. Depuis quelque temps, on n'entendait plus parler du CIE de Corso Brunelleschi à Turin. À part quelques histoires ordinaires de violences et abus commis par la police, aucune protestation à l'intérieur, aucune initiative en dehors des murs, rien de rien. Pourtant, il n'a suffi que d'une petite initiative à l'extérieur des murs du centre, une quarantaine de personnes réunies pour fêter les 10 ans de la Samba Band, pour réattiser cette fin de liberté que, évidemment, les somnifères de la Croix-Rouge ne peuvent éteindre et qui n'attendaient que l'occasion pour se déchaîner. Au son des tambours, les détenus ont réagi immédiatement en essayant de briser les portes des cages, d'abord une section, puis une autre. Et finalement, tout le centre, y compris la section femmes, était dans la tourmente. La police intervient d'abord avec les canons à eau, puis entre dans les sections les plus chaudes pour apaiser les esprits au son des coups de matraque. Quand le rassemblement se pose devant l'entrée du centre, vient la nouvelle de 5 blessés dans la section violette. Et donc apparemment, là je fais un petit intermède, il y a des sections avec des couleurs, alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais du coup il y a des sections jaunes, bleues, violettes.
Et j'en profite que tu fais cet intermède pour rajouter un truc, parce que du coup tu parlais de la Croix-Rouge qui distribuait des médicaments. C'était pour préciser que la Croix-Rouge, elle ne fait pas que intervenir pour distribuer des médicaments, mais elle co-gère carrément les centres de rétention.
Et du coup, bon, alors je reprends la lecture. Et quand le rassemblement retourne sur le Corso, bloquant la circulation de la Via Mazzarello et sur la Via Montginevro, l'air est rempli de l'odeur des lacrymogènes lancés contre les révoltés. Certains parviennent à grimper sur les toits de la section bleue et de là saluent les manifestants. Modène, révolte et balles de tennis, 25 décembre 2012. Mardi 25 décembre, des balles de tennis ont été envoyées par-dessus les murs du centre de rétention de Modène. Des messages comportant l'inscription « Liberi tutti » ainsi qu'un numéro de téléphone étaient glissés à l'intérieur. Le soir même, une révolte éclate. Des matelas sont jetés dans la cour et les insultes contre le personnel du centre et les forces de l'ordre présentes sur place fusent. Il y aurait eu, également, plusieurs tentatives de suicide. Dès lors, les détenus ont entamé une grève de la faim. Italie, révolte et évasion du Nouvel An 2013. Le 28 décembre à Turin, le Nouvel An à Bologne, le Nouvel An à Turin, le Nouvel An à Gradisca. 31 décembre à haute tension au CIE de Gradisca. Une grosse révolte a éclaté dans le centre la nuit de la Saint-Sylvestre. L'émeute a eu pour protagoniste près de 20 détenus, dont 7 ont réussi à s'évader. Il n'y a malheureusement pas eu de blessés chez les flics malgré les nombreux objets lancés. Visiblement, l'action avait été organisée dans les moindres détails par les détenus. L'alarme s'est déclenchée vers 20h30 lorsqu'un groupe de détenus a réussi à sortir des chambres et à se faire la belle. Apparemment, ils l'ont fait sans résistance de la part des matons. En effet, les retenus s'étaient procurés les clés des portes qui séparent la cafétéria de l'entrepôt. Les autres portes ont été forcées à coups de pied. Une fois dans l'entrepôt, les révoltés se sont armés de gros cadenas et d'extincteurs. D'autres s'étaient préparés à l'émeute depuis des jours. Ils avaient rempli de pierres et de sable des bouteilles en plastique pour les lancer sur les flics. Une fois dans la cour, la tension a atteint son paroxysme. Policiers, militaires et carabinieri qui surveillent l'extérieur ont été visés par des objets lancés par les retenus. Certains ont vidé les extincteurs sur les flics. Deux flics de la garde des finances ont été emmenés aux urgences pour intoxication. Profitant du bordel, sept retenus ont réussi à escalader le dernier mur d'enceinte et à disparaître, sans laisser de traces, dans la nature avoisinante. Mais la tension a persisté et il a fallu encore plusieurs heures pour mater la révolte. Le syndicat de flics matons, qui officie dans le centre, a déclaré que c'était le règne de l'anarchie. Rome. Révolte au CIE de Bonte Galeria, 18 février 2013. Turin. La Croix-Rouge attaquée, 24 février 2013. Dimanche 24 février, en solidarité avec les retenus du centre en révolte, la Croix-Rouge s'est retrouvée sans chauffage. Le gaz de la Croix-Rouge de Via Bologna a été coupé et le boîtier a été scellé avec du ciment. Liberté pour les détenus arrêtés lors des dernières révoltes. Turin, attaque incendiaire et expulsion d'une compagnonne, 1er mars 2013. Selon les éditions internet de certains quotidiens locaux, dans la nuit de jeudi à vendredi, une cabine électrique des bureaux de l'immigration et de la préfecture de police de Turin, Corso Verona, a pris feu. Selon les calculs des comptables de la préfecture, les dégâts monteraient à près de 70 000 euros. Turin, 6 mars 2013. Le CIE de Corsa Brunelleschi est toujours en grande partie inutilisable. Contrairement à ce que disent les journaux, les chambres sont toujours hors d'usage. 2 des 5 arrêtés sont sortis de prison. L'un avec une mesure d'expulsion du territoire italien et l'autre a été expulsé après être passé par le CIE. Je fais une petite intermède parce que du coup, là ça se comprend pas bien, mais du coup il y a 5 personnes qui s'étaient posées en solidarité qui ont été arrêtées par la justice. Ils sont accusés en fait d'avoir d'avoir agressé un journaliste lors d'un rassemblement qui prenait des photos, en fait, un journaliste d'un des plus gros torchons de Turin. Il prenait des photos et du coup, ils ont essayé de lui choper son appareil photo, ils lui ont cassé les lunettes et du coup, il n'était pas content. Du coup, il a porté plainte et du coup, à cause de ça, il y a 5 personnes qui ont fait de la tôle et qui maintenant sont en contrôle judiciaire. Du coup, voilà, je reprends la lecture. Au cours des 10 derniers jours, il n'y a eu aucun nouvel arrivant dans le CIE. Dans toutes les aires du centre, du riz puant a été distribué. Tous sont sûrs que le repas était agrémenté d'une bonne dose de tranquillisant et un militaire s'est pris en retour l'assiette sur la tête. Trapani, évasion et chasse à l'homme à Trapani Milo, 28 mars 2013. Dans la nuit du mardi 26 mars, une quinzaine de prisonniers du centre de rétention de Trapani Milo ont réussi à s'enfuir en escaladant le mur d'enceinte de la prison, puis en suivant la ligne de chemin de fer. Une véritable chasse à l'homme s'est alors engagée, et sept évadés ont été repris au petit matin alors qu'ils volaient de la nourriture dans un restaurant. Ils sont en prison, inculpés de vol aggravé et de résistance à dépositaire de la force publique. Modène, flamme dans le CIE, 16 avril 2013. Du coup, voilà, cette brochure, elle finit par la retranscription d'une lettre d'une des personnes solidaires qui a été en prison depuis la prison. Et du coup, voilà, on espère fort que la répression n'attaque pas le courage et la détermination de ceux qui luttent à l'intérieur comme à l'extérieur des murs et que ces centres soient encore nombreux à brûler. Pour finir, je vais juste faire une citation de une banderole, en fait, où il y avait marqué ce slogan « Permis de séjour, papier d'identité, le papier est seulement du papier, le papier brûlera, feu au CIE ». Cette brochure est disponible sur infokiosque.net.
Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On voulait parler encore de deux choses. La première, c'est la sortie d'une petite feuille de chou qui s'appelle Tôle buissonnière et qui reprend un peu des informations de lutte contre les prisons et de lutte de prisonniers à l'intérieur dans la région Rhône-Alpes. On l'a trouvé un peu ici et ailleurs dans la région sur les murs. Il y avait aussi l'envie de parler d'une brochure qui s'appelle Bout de chemin et qui est un recueil de textes de Gabriel Pombo da Silva. Donc Gabriel, c'est un prisonnier anarchiste qui a passé près de 30 ans en prison, dont une vingtaine dans les prisons espagnoles et notamment dans les Fies. Donc c'est des régimes spéciaux qui ont été mis en Espagne dans les années 90, à un moment où il y avait des fortes luttes de prisonniers. Et c'était une réponse de l'État pour mater les rébellions, pour enfermer dans des conditions d'isolement très très dures les prisonniers rebelles. Il y a un livre qui s'appelle « Ouillet Ambré Ouillet » qui a été écrit par un prisonnier qui a passé quasiment toute sa vie en prison, en luttant, et qui en est mort, qui raconte ses luttes, donc c'est José Tario, et qui raconte les conditions dans lesquelles ces luttes se déroulaient, et la répression qui en découlait, et la révolte qui a perduré. Ce bouquin, il est disponible, ainsi que la brochure dont je suis en train de parler, notamment au local autogéré, 7 rue Pierre Dupont, près du McDo de l'Aigle, à Grenoble. Donc Gabriel, qui était incarcéré dans ces conditions, dans les Fies, dans ces conditions extrêmement difficiles, est parti en cavale à l'occasion d'une permission en octobre 2003. Le 28 juin 2004, suite à un contrôle de police et une fusillade pour ne pas retomber aux mains des flics, il est arrêté en compagnie de sa sœur et de deux compagnons, Bart de Guitter et José Fernando Delgado, qui étaient aussi en fuite des prisons espagnoles. En 2005, ils ont été jugés dans la ville allemande de Aachen à 13 ans, enfin... Ils ont pris comme peine 13 ans pour Rosé, qui est accusé également de braquage, 14 ans pour Gabriel, Bart 3 ans et demi et Bégonia à 10 mois avec sursis. Gabriel, il a purgé sa peine à Aachen dans des conditions vraiment difficiles. Il a refusé par exemple l'obligation de travailler qui est en vigueur là-bas et donc il était contraint de rester en cellule 23 heures sur 24. Il a continué à s'impliquer comme il pouvait dans différentes initiatives de solidarité et d'offensive à travers le monde contre l'enfermement et l'autorité sous toutes ses formes. Et en janvier 2013, donc récemment, aux deux tiers de sa peine, il a été extradé vers l'Espagne qu'il réclamait pour purger le reste de sa peine, dont on ne connaît pas pour l'instant la teneur exacte. Le fait que c'est un prisonnier rebelle, ça fait que la paix tient à le faire chier de différentes manières, et notamment qu'il est très 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 souvent transféré, ce qui rend compliqué le maintien de ses liens avec l'extérieur. Au début du mois d'avril, il y a un mandat d'arrêt européen qui a été délivré contre lui par l'Italie dans le cadre de l'opération Ardir, qui a eu lieu en Italie l'été dernier. Donc durant cette opération, suite à une quarantaine de perquisitions contre des anarchistes, il y a 8 personnes qui ont été incarcérées Et notamment, dans les mis en cause, il y avait des gens qui étaient déjà en prison, comme Gabriel et aussi Marco Kamenich, qui est incarcéré en Suisse, et qui sont mis en cause dans cette enquête. Pour l'instant, on ne sait pas quelles seront les suites de ce mandat d'arrêt, même si on devine que la volonté de l'État italien, c'est certainement de l'incarcérer en Italie, dans une aile de la prison de Ferrara, qui a été spécialement conçue pour briser les récalcitrants, où d'autres prisonniers anarchistes sont déjà dans des conditions d'isolement très dures, et ça aussi comme un avertissement qui est censé faire peur à tout le monde. Voilà, donc cette brochure, elle sort dans ce contexte-là, pour permettre de faire mieux connaître le parcours de Gabriel, ses idées. Et c'est aussi dans l'idée de pouvoir développer de la solidarité avec lui, avec de manière plus générale les prisonniers qui luttent, et aussi de lutter contre la prison et contre le monde qui en a besoin. Comme on dit, c'est pas juste une formule, parce que la prison, elle a vraiment une fonction très importante dans la manière dont le monde y tourne.
Et ben, du coup, vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps, je vais juste vous faire une petite brève d'évasion. Du coup, le jeudi 6 juin, un détenu en semi-liberté à la maison d'arrêt d'Épinal s'est évadé. Il prenait des cours à un lycée agricole et était transféré en bus de la pénitentiaire chaque matin et chaque soir, de sa cellule à la salle de classe. Au milieu d'un cours, il a simplement demandé à aller aux toilettes et en a profité pour se barrer. Il court toujours. Eh bien, on est bien content, on espère qu'il courra le plus longtemps possible. Et j'en ai plein d'autres, mais du coup, on n'a pas trop de temps. Juste, j'ai quand même envie de lire cette petite dernière brève qui est quand même assez rigolote. Le 31 mai, un chat a été arrêté dans une prison de la République de Komi, au nord de la Russie. Il transportait deux téléphones portables avec leur chargeur pour les détenus. Du coup, voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vais rappeler vite fait les contacts de l'émission. Du coup, Les Murs ont des oreilles, Radio Kaleidoscope, BP 422, Grenoble CEDEX 38018, le contact mail lesmurs@riseup.net et le blog où vous pouvez trouver les anciennes émissions, des textes. Et voilà, c'est les murs ont des oreilles tout attaché .noblogs.org. Et ben, on va vous dire au revoir. La prochaine émission, c'est le mercredi 17 juillet. Et à bientôt.
Salut.
Salut.